Bertrand Sicadi, bonjour.
Bonjour.
Je commence cet entretien par ces trois mots, Boza, Boza, Boza. Vous les avez hurlés, ces mots, c'est un cri de victoire.
Forcément, c'est des mots que j'ai prononcés, c'est des cris, j'ai hurlé. Juste quand j'étais arrivé côté espagnol, tous les migrants pratiquement voilà, le prononcent, qui arrivent à entrer sur le sol européen. Ça peut être aussi un cri pour se motiver, ça peut être aussi un cri de victoire, qui veut dire on est rentré, on a réussi et tout, voilà.
Combien de fois avez-vous tenté cette traversée? Combien de fois avez-vous tenté de franchir cette frontière de fil barbelé entre le Maroc et l'Espagne? Combien de fois avez-vous dû affronter la Méditerranée?
En ce qui concerne les traversées, les tentatives de toute façon ou les assauts sur les barrières du côté de Melilla ou bien de Ceuta, j'en ai fait tellement de fois que je ne peux pas me souvenir. Mais exactement, je suis allé par la mer 12 fois. Donc 11 fois, c'était 11 échecs et la 12e fois était la bonne.
Vous êtes Camerounais, vous avez fait des études universitaires en philosophie. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? C'est une question qu'on vous pose tout le temps. Pour vous, il fallait être fou, voire être inconscient pour partir comme vous l'avez fait sur les routes de l'exil?
On va dire un peu fou, oui, mais c'est dû à la misère, c'est dû à la pauvreté, c'est dû à plein de choses en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'intitule le livre « Je parle de folie » en fait, parce que il y en a qui partent des pays, par exemple, comme la Somalie, le Soudan, qui sont en pleine guerre, comme également le Cameroun dans les régions anglophones depuis 2016. Il y a une guerre, donc des gens qui, on va dire quelque part, n'ont plus rien à perdre, plus rien à gagner. Leur vie, de toute façon, de l'autre côté, ne vaut pas grand-chose. Parce que derrière, ils ont pratiquement tout perdu et tout. Donc pour moi, jeune étudiant, je n'ai pas terminé mon parcours à cause des difficultés de tous les jours. Donc au final, je me suis dit, il faut que je tente autre chose parce que dans ce pays, je n'ai pas d'avenir.
Donc vous n'aviez plus rien à perdre.
Je n'avais pas d'avenir dans ce pays et j'ai tenté autre chose, c'est-à-dire me jeter dans le vide.
Alors au vu de votre périple migratoire, de vos souffrances, est-ce que ça valait la peine de partir, de tout quitter pour cet Eldorado, l'Europe, avec du recul aujourd'hui?
Avec tous ces risques que j'ai pris, et je ne suis pas mort, d'autant plus que j'ai vu mes amis mourir, j'en ai enterré quelques-uns. Pour moi, c'est assez choquant et je me dis, j'aurais pu faire mieux, c'est-à-dire rester chez moi. Ou alors, même si je voulais venir en Europe, tâcher d'y aller par des moyens légaux. Même si je sais que financièrement, c'est très très compliqué pour ma famille, elle n'aurait pas pu de toute façon. Mais il y a une chose souvent que les gens oublient, moi-même j'étais pas au courant. Parfois, en prenant ce chemin, on dépense bien plus que par la voie légale, quoi. J'en connais qui y sont depuis 2011, c'était l'année de mon départ du Cameroun, jusqu'aujourd'hui 2020, ça fait 9 ans, ils ne sont pas toujours entrés. Et ils ont dépensé déjà bien plus que 6-7 millions.
2011, donc c'est votre date de départ du Cameroun.
Date de départ, oui.
C'est le début de votre calvaire. 2014, votre entrée en Europe.
Exactement.
En 3 ans, vous avez tout vécu. Vous avez traversé le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc. Vous allez rester le plus longtemps, 2 ans.
2 ans et demi presque, oui.
Vous avez vécu le pire le 17 septembre 2013. C'est une date terrible pour vous encore aujourd'hui?
J'ai eu la chance d'ailleurs de m'en sortir ce jour parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont morts. On était en train de tenter la traversée. Il y a eu beaucoup de militaires, ce qu'ils appellent là-bas les forces auxiliaires, qui ont été aussi accompagnés par des voyous du quartier, parce que c'est souvent le cas, avec des couteaux, des machettes et tout. Et c'est comme ça que je tombe sur un militaire. Déjà, je ne sais pas ce que vient faire une machette en pleine frontière, des gourdins, des serre-joints avec lesquels d'ailleurs ils tuaient des gens. Je reçois un coup de machette au niveau de ma main gauche qui tranche pratiquement les 4 premiers doigts. Il n'y a que l'auriculaire qui tient encore. Je perds mon sang, je perds beaucoup de sang pendant 1 heure de temps pratiquement. En fait, j'ai encore, à chaque fois que j'en parle, des images assez tristes qui me reviennent, des gens autour de moi qui criaient, qui appelaient au secours, des gens qui étaient presque morts, d'autres, des corps balancés sur la place. C'était horrible, horrible.
Aujourd'hui, vous êtes un survivant.
Oui.
Comment allez-vous?
Je vais super bien.
Vous êtes régularisé, vous travaillez dans le domaine de la sécurité, vous avez construit une famille.
Exactement, oui, je suis à la RATP et tout, donc j'ai ma famille et tout.
Vous avez pu revenir aussi au Cameroun?
Oui, je suis allé au Cameroun en 2018, j'y ai passé 1 mois, malheureusement. Avec le temps qui est passé, la situation ne s'est pas améliorée, c'est de plus en plus difficile sur le plan social, des populations qui souffrent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'école, il y a beaucoup de choses qui manquent à ce magnifique pays.
Pourquoi aujourd'hui vous avez envie de témoigner à travers cet ouvrage, un ouvrage d'ailleurs que vous publiez à compte d'auteur. Pourquoi ce choix? C'était important pour vous de pouvoir aborder tous les sujets sans aucun tabou ni censure, parce que vous parlez notamment de sexualité, d'homosexualité, de racisme envers les Noirs au Maroc, des passeurs et de leur cruauté. Et vous parlez aussi du manque de solidarité entre les migrants. Pour vous, c'était important de publier cet ouvrage à compte d'auteur?
Très important. Je ne voulais pas que quelqu'un change, ne serait-ce que la moindre virgule, sur ce que j'avais envie de raconter, ce que j'avais envie de mettre sur la table comme problème, à savoir... l'immigration clandestine et des milliers de morts qu'il y a de partout. Je voulais raconter ma propre histoire. Je ne voulais pas que quelqu'un me dise « Non, il faut retirer ci, il faut mettre plutôt cela. » Non, j'ai tenu à le faire en fonds propres, en vivant des petits boulots et tout, j'ai pu le faire. C'est pour ça d'ailleurs que bon, j'ai un enfant de 3 ans. Généralement, je dis « Mon livre, c'est mon deuxième bébé. »
Ça a été aussi une thérapie,
en exactement, quelque sorte. Cette période-là où je me rappelle, j'allais en formation et à chaque fois dans le train, j'étais toujours en train d'écrire. Ce sont des moments qui me permettent d'être en quelque sorte en conversation avec moi-même. C'était des moments où je prenais du recul pour mieux écrire. Ça m'a fait du bien, énormément. Et donc aujourd'hui, quand je témoigne, ce n'est plus forcément pour moi, parce qu'il y a des gens qui m'appellent et me disent « Est-ce que vous allez bien ?» Je dis « Non, je vais très bien d'ailleurs. » Mais ce que je fais aujourd'hui, ce n'est plus pour moi. Je le fais pour ces gens qui sont en Afrique, des gens qui vont prendre la route d'ici quelques semaines. Je sensibilise au maximum, je mets sur la table un sérieux problème, qui est un problème migratoire. D'ailleurs, la France est concernée en ce moment, donc je fais en sorte qu'on puisse mettre beaucoup plus de lumière là-dessus et que ce que les migrants vivent, en fait, soit raconté par les migrants eux-mêmes.
C'est ça votre message, parce que vous dites vouloir vous occuper des migrants. Pourquoi et comment?
Essayer de donner déjà des petits coups de main, c'est ce que je fais d'ailleurs depuis des années que je suis entré ici. J'ai été avec des personnes individuelles comme des associations où je donnais des petits coups de main, mon temps libre. Je me rappelle, j'ai été secouru dans la mer par la Croix-Rouge. À chaque fois que je vois la Croix-Rouge, des gens, j'essaie toujours de faire des gestes. Je rencontre encore beaucoup de migrants dans ma ville avec Espéré 95. Je vais souvent à leur rencontre, je discute beaucoup avec eux. Je viens de mettre sur pied mon association Agis dans l'urgence, en abrégé ADOU Immigration. Donc tout est en train d'être mis en place et d'ici peu, je vais être plus efficace sur le terrain.
Ouais. C'est-à-dire de quelle manière? Parce que votre message est de dire ne venez pas, ne prenez pas autant de risques pour venir en Europe.
Oui, mais justement, ne venez pas, ne prenez pas ces risques-là. Mais une fois quand ils sont sur le terrain, sur le territoire français ou en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On va pas leur dire retournez chez vous. Il faut d'une manière ou d'une autre les intégrer ou refuser qu'ils ne viennent pas sur le territoire, peut-être disons français. C'est pas ça la solution. Parce que j'ai regardé encore des images la dernière fois. On disait pour l'année 2020, c'est pratiquement 15 000 migrants qui ont été bloqués du côté de l'Italie. En fait, on ne leur permet pas d'entrer sur le sol français. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que c'est tous ensemble, que ce soit les dirigeants européens, les dirigeants africains en premier, parce que c'est de là-bas que les migrants partent. Et justement, s'ils quittent ces pays, c'est parce qu'ils n'ont rien fait pour cette jeunesse. Donc il y a aussi cette responsabilité-là de part et d'autre. Et je pense que c'est ensemble qu'on pourra faire quelque chose.
Chacun doit prendre sa part et c'est votre responsabilité aussi en tant que migrant de sensibiliser.
De sensibiliser, parce qu'encore, il n'y a même pas 2 semaines. Pour le moment, j'espère en tout cas que ça ne va pas se passer comme les gens l'ont déjà dit au pays, notamment dans ma petite ville de Njombé. Il y a encore 2 de mes voisins qui sont partis en mer, ça fait pratiquement 20 jours, on n'a plus de leurs nouvelles. Il y a un mois, il y avait un qui était mort, il y a 2-3 mois en arrière, c'était un autre. En fait, dans une toute petite ville aujourd'hui, il y a des familles endeuillées un peu partout à cause de ces désastres de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle j'essaie de sensibiliser au maximum, déjà dès le départ, que les gens prennent conscience de ces risques énormissimes.
Est-ce qu'on peut empêcher les départs?
On peut empêcher les départs, pas en allant dans les frontières, dire aux gens rentrez, ne traversez pas, mais en créant des entreprises, en offrant de l'emploi à la jeunesse, la formation. C'est l'ensemble de tout ça en fait qui fera que par la suite, les gens auront moins envie de sortir, qu'on arrête de nous faire croire que parce que le pays fonctionne bien, la croissance à 2 chiffres, que le pays se porte bien. Un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a des chiffres assez faramineux à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'enfants ivoiriens aujourd'hui qui sont mendiants dans les rues au Maroc. Beaucoup sont à Marrakech, à Agadir, un peu partout. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas de beaucoup de ces pays. Le Sénégal, qui est pourtant un pays stable politiquement. Le Mali, il y a beaucoup, beaucoup. Dire « faites attention ». C'est une question très, très difficile. Très, très difficile pour moi qui suis passé par là parce que il y a des gens qui vont me dire « Ah, une fois vous êtes arrivé, vous voulez donner des leçons aux autres ». C'est la raison pour laquelle je suis souvent très, très mesuré sur cette question. Je me dis Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, à ceux qui sont derrière et qui veulent venir, mais je dis, faites attention parce qu'encore une fois, sa vie, elle est bien plus importante. Une vie humaine, c'est sacré.
Bertrand Sicadi, merci.
C'est moi qui vous remercie, c'est un honneur pour moi.